Cette nuit-là, j'écris qu'il faut croire aux fauves, à leur silence, à leur retenue. Croire aux qui vivent, aux murs blancs et nus, aux draps jaunes de cette chambre d'hôpital. Croire aux retraits qui travaillent le corps et l'âme dans un non-lieu qui a pour lui sa neutralité et son indifférence, sa transversalité. L'informe se précise, se dessine, se redéfinit tranquillement, brutalement. Désinnervé, réinnervé, mélangé, fusionné, greffé. Mon corps après l'ours, après ses griffes. Mon corps dans le sang et sans la mort. Mon corps plein de vie, de fils et de mains. Mon corps en forme de monde ouvert, où se rencontrent des êtres multiples. Mon corps qui se répare avec eux, sans eux. Mon corps est une révolution.
Bonjour Anastasia Martin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Croire aux fauves, c'est un extrait de ce livre que vous avez fait paraître chez Vertical, que vous venez de nous lire. Vous êtes anthropologue et cette histoire, Croire aux fauves, c'est la vôtre. C'est l'histoire d'une rencontre inopinée et qui aurait pu être tragique. C'est donc aussi l'histoire d'un miracle qui a provoqué une métamorphose. C'est l'histoire d'une frontière qu'on croyait étanche et qui vole en éclats comme une mâchoire sous des crocs. C'est l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée littéralement la tête dans la gueule d'un ours et qui a survécu. Cette femme, c'est vous. C'est enfin le travail, l'histoire d'un travail qui a abouti à l'écriture d'un livre extraordinaire, aujourd'hui récompensé par un prix littéraire et par une rencontre, une autre, cette fois avec un public. Cette rencontre-là, elle est bien plus douce. Bravo pour ce prix déjà. Le prix littéraire, c'est le prix François Sommer. Votre livre a paru au début de l'automne. Il a fait son petit bonhomme de chemin. 21 000 exemplaires vendus, 10 réimpressions. Ce prix François Sommer qui vous a été décerné vendredi 24 janvier. C'est un prix qui récompense un livre qui explore, a dit le jury, dirigé, présidé cette année par l'avocat écrivain François Sureau. C'est un livre donc qui explore les relations entre humain et nature. L'argument du jury, c'est de dire que c'est une réflexion profonde sur l'altérité et la métamorphose à partir de sa rencontre violente avec un ours et du récit de sa renaissance. C'est bien résumé pour vous cet argument ?
Oui, absolument. Et surtout, ça permet de mettre la lumière sur le fait que c'est aussi l'histoire d'un chercheur, d'une anthropologue qui raconte comment elle s'est à un moment fait déborder quelque part par son objet de recherche. Et le terrain sur lequel elle travaillait. Donc, en l'occurrence, c'est ça que j'essaie de retracer dans le livre. C'est pas tellement, disons, que je me sers, en fait, de cet événement, de ma rencontre avec l'ours, pour montrer, finalement, comment la cosmologie animiste sur laquelle je travaille depuis 15 ans, j'ai d'abord travaillé en Alaska auprès des Gwich'in, avant de venir au Kamchatka et de travailler avec un clan familial Even. Comment finalement cette cosmologie animiste s'est transformée d'objet de recherche en une expérience qui a non seulement traversé mon intellect, mais aussi mon corps. Et ce qui me permet donc de questionner la position de l'anthropologue et du chercheur par rapport à son objet. C'est-à-dire comment, après une telle expérience, on se repositionne en tant que chercheur et qu'est-ce qu'on traduit de cette expérience et de ce terrain et de cette cosmologie qui, de fait, n'est plus si altère que ce que l'on pouvait penser au début, puisque je l'ai vécu moi-même.
Oui, et que l'altérité a pu se transformer, et votre regard derrière s'est transformé. On va avancer, Anastasia Martin, pas à pas, si vous le voulez bien. D'abord, sur ce terme même de rencontre, vous tenez au mot, alors que le terme de rencontre, quand on connaît votre histoire, quand on a lu ce livre, n'est pas le terme qu'on emploierait naturellement. Pourtant, vous, vous y tenez beaucoup. Pour quelle raison ?
Oui, j'y tiens beaucoup parce que cette rencontre, elle n'existe pas que dans la confrontation violente entre moi et un ours. Elle a d'abord été préfigurée dans des histoires que l'on s'est racontées entre les Évennes et moi et dans des rêves qui m'ont traversé lorsque j'habitais à Tfayan sur le terrain en forêt. Et lors de ces rêves, en fait, ce qu'il est possible de faire, selon les Évennes, et qui m'est arrivé aussi à moi, c'est justement de rencontrer d'autres êtres, c'est-à-dire de rêver non pas seulement d'eux, mais avec eux. Et au matin, au réveil, de se servir finalement de ce qui a été déposé en vous pendant la nuit pour sentir, plutôt que prédire, quelle sera la tonalité de la journée ou des semaines à venir. Donc c'est extrêmement important pour les évènes de rêver, parce que c'est là qu'ils peuvent rencontrer d'autres êtres, être en dialogue avec eux, parce qu'évidemment nos dispositions physiques, c'est-à-dire les dispositions physiques de nos corps, ne nous permettent pas de parler directement, par exemple, avec un ours, mais lors de ces rêves, ces limitations des corps sont complètement abolies. Et c'est ça qu'on rappelle à la mémoire au petit matin autour du feu lorsqu'on se raconte les rêves à voix basse, ce sont ces rencontres. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que ces rencontres qui devaient rester oniriques quelque part ne sont pas restées oniriques, ce qui a marqué un point de rupture, tant pour moi dans ma pratique du terrain et en tant qu'anthropologue, mais aussi pour eux, je dirais pour les évènes eux-mêmes. L'événement est venu quelque part déborder leur propre cadre de pensée, en fait.
Il faut dire un mot de ces événements, peut-être, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec cette population. Ces événements vivent donc au Kamtchatka, qui est donc en Sibérie, et ils ont fait un choix très politique après la chute du mur de Berlin. Ils ont choisi de retourner vivre dans la forêt profonde. C'est un choix politique, et la chef de clan, Daria, qui est presque une seconde mère pour vous, c'est en tout cas comme ça que vous la présentez, le dit clairement. Elle dit un jour: la lumière s'est éteinte et les esprits sont revenus. D'où cette volonté de retourner vivre dans la forêt.
Oui, et c'est, je trouve que cette phrase est absolument fabuleuse, car elle dit quelque part la précarité des mondes, des sociétés modernes dans lesquelles nous vivons. C'est-à-dire que s'il a suffi à la lumière de s'éteindre pour que les esprits reviennent, c'est dire si les choses peuvent aller vite, entre guillemets. Et elle questionne aussi qu'est-ce qui peut se passer, comment on peut répondre à une crise systémique lorsqu'on y est confronté de manière immédiate et actuelle, comme ça a été leur cas en 1989. Et donc oui, elle a décidé à ce moment-là, lorsque les vivres ont été coupés et qu'ils n'ont plus accès finalement à l'eau, à l'électricité, aux magasins, etc., de repartir en forêt, non pas sur leur terre ancestrale, comme on pourrait le croire, c'est pas un retour à l'authenticité. Ils sont revenus dans un lieu qui était en fait jusque dans les années 60 un ancien kolkhoz qui a marché des années 40 aux années 60 et qui ensuite a fait faillite, donc était très très avancé dans la forêt à 500 km de la première piste carrossable. Et tous les indigènes qui vivaient là, donc qui étaient des éleveurs de rennes, ont été relocalisés dans les kolkhoz du nord, dont en l'occurrence le plus gros, Esso. Et ce qui s'est passé, c'est que donc Daria décide en 89 de prendre sa famille et de retourner sur les ruines finalement de cet ancien kolkhoz et donc de cette tentative politique échouée quelque part. Mais non pas de redevenir éleveur de rennes, puisqu'évidemment depuis la collectivisation, ils n'ont plus de rennes, mais de redevenir, donc c'est-à-dire encore avant, chasseur, pêcheur, cueilleur. Et c'est comme ça en fait qu'ils se réapproprient une forme d'autonomie, une autonomie économique d'une part, mais aussi une autonomie dans la manière de se relier au monde, parce que évidemment en redevenant chasseurs, ils réouvrent les possibilités de dialoguer avec des non-humains de la manière dont eux sentent la justesse de ces relations. Et donc c'est vraiment un mouvement voilà, à la fois un geste à la fois cosmologique et aussi politique véritablement.
Et vous, quand vous arriviez là-bas, Anastasia Martin, vous étiez donc forte de cette expérience que vous aviez eue avec les Gwich'in en Alaska d'abord. Et puis aussi, il faut dire que vous êtes toujours sentie chez vous dans la nature, en montagne. Hein, à 17 ans, vous faisiez guide de rafting, vous répariez des coques de bateau en Alaska. Enfin bon, vous n'avez pas froid aux yeux, on va dire. Donc vous vous êtes retrouvée au Kamtchatka presque naturellement. Comment vous ont-ils accueilli et comment avez-vous réussi malgré tout à vivre en harmonie avec eux, c'est-à-dire à apprendre la façon dont ils ont de vivre avec la nature environnante, qui est une nature que vous allez nous décrire d'ailleurs, et puis ces rêves dont vous parlez, même si vous étiez déjà familière avec une certaine façon de vivre et que vous aviez beaucoup étudié en tant qu'anthropologue ce type de population, et vous-même dans votre corps et dans votre parcours biographique avant tout, vous arriviez quand même dans une population que vous ne connaissiez pas pour l'avoir pas encore vécu avec eux. Donc comment ça se passe, l'apprentissage de tout ça?
Oui, alors juste une chose, je pense que le qualificatif, le terme harmonie est peut-être de trop, parce qu'une relation avec des gens sur un terrain, que ce soit en Alaska ou au Kamchatka, peut être magnifique, enrichissante, etc., mais rarement harmonieuse. C'est généralement quand même assez difficile.
Dur. Mmh.
Voilà, c'est difficile. Déjà, c'est difficile physiquement, parce que c'est des gens qui vivent, comme je le disais tout à l'heure, très éloignés en forêt, et donc il faut de longues heures. Alors, ça dépend de la saison, mais soit en motoneige, soit en bateau, soit à pied et ou à pied, pour rejoindre ces camps de chasse. Et puis, eh bien, en hiver, il fait très froid, il fait jusqu'à moins 40, moins 45. Et en été, il y a énormément de moustiques, ce qui peut rendre fou.
Et il peut faire 40 degrés aussi.
Et il peut faire 40 degrés, absolument. Donc déjà, voilà, c'est vrai que c'est physiquement assez compliqué. Mais oui, moi, étant de fait montagnarde depuis le plus jeune âge, c'est pas quelque chose qui me rebutait. Non, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la manière dont... Finalement, en arrivant jusque chez Daria, ça a été très long et au début, oui, en effet, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient jamais eu d'anthropologue chez eux. Mais c'est surtout de me rendre compte que c'est eux qui se sont mis à me poser des questions, en fait, sur ma vie,
votre mode de vie,
le monde dans lequel je vivais, sur les systèmes politiques en Europe. Ce sont des gens très, très cultivés qui, de fait, savent très bien ce qui se passe hors de leur forêt, mais qui sont vraiment intéressés et qui, du coup, m'ont accueilli comme cet alter, cet autre, avec lequel il était possible de dialoguer, un petit peu comme il relationne avec les autres animaux, quelque part. Et donc, on est vraiment entré en relation sur ces bases. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire assez librement que tant croire aux fauves que les autres projets que j'ai en ce moment avec eux sont des projets collectifs. C'est-à-dire que c'est pas juste le chercheur qui vient, qui puise les ressources intellectuelles dont il a besoin sur le terrain pour produire un livre, etc. Non, c'est véritablement...
C'est un échange.
C'est un échange, c'est une coproduction. Et je pense que je n'aurais jamais écrit ces choses-là et les choses que je suis en train d'écrire aussi actuellement sur Daria si elle n'avait pas elle-même eu le désir de porter une voix finalement sur son monde à elle dans notre monde ici même, dans le monde occidental. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour elle.
Il y a un philosophe dont on parle beaucoup ces temps-ci et qui était d'ailleurs avec vous en discussion jeudi soir lors de la Nuit des idées, c'est Baptiste Morisot. Baptiste Morisot vient de faire paraître un livre qui s'appelle « Manière d'être vivant », »,« Manière au pluriel ». Il était déjà l'invité de France Culture en 2016 pour le livre précédent. Je voudrais vous proposer d'écouter ce qu'il dit sur ces manières d'être vivant, mais à l'époque, il ne l'appelait pas comme ça.
Dans le vivant, il existe des rapports diplomatiques et des dispositifs de pacification, mais il existe aussi des conflits radicaux, il existe aussi de la prédation, il existe même des espèces qui se détruisent les unes les autres. C'est une des modalités de la relation au vivant. Elle existe avant nous. Moi, je fais volontiers l'hypothèse, grâce à ces grands anthropologues que sont Philippe Descola, Eduardo Viveros de Castro, que certaines ontologies, comme ils disent, notamment l'animisme ou certains modes de gestion de la réalité, comme le chamanisme, étaient très lucide sur cette diplomatie. Je cite une phrase d'Eduardo Viveros de Castro qui définit le chamanisme comme un art politique et même une diplomatie. Il est très probable que quand il a fallu cohabiter, immerger dans des habitats partagés, c'est-à-dire avant qu'on invente la nature, nous étions constamment voués à être d'excellents diplomates et que nous avons fondamentalement oublié la plupart des choses. Je pense que non seulement il y a des choses dont il faut se ressouvenir, et là c'est très intéressant de faire de l'ethnographie des dispositifs de cohabitation qui sont extrêmement fins et qui sont omniprésents chez les cultures, dans des cultures qui n'ont pas abdiqué cette immersion dans des habitats partagés. Et parallèlement, il faut profiter des découvertes contemporaines de l'éthologie cognitive, des moyens, des sciences du comportement qui sont maintenant... sur certains points, intéressé par cette délicatesse et cette subtilité des comportements animaux.
Nastassia Martin, c'est finalement une idée qui vous est chère, c'est l'idée d'un fond commun entre humains et animaux, une idée que défend depuis longtemps Philippe Descola, qui a été votre directeur de thèse.
Oui, absolument. L'idée qu'un fond commun animé nous permet de dialoguer avec d'autres vivants que nous. Mais je voudrais dire que la question que Baptiste Morisot soulève et sur laquelle nous travaillons d'ailleurs ensemble depuis plusieurs années, c'est la question aussi de l'hybridation. C'est-à-dire qu'à l'heure des métamorphoses environnementales liées au changement climatique, finalement, ce qu'on observe, c'est non seulement une hybridation des êtres vivants entre eux, qui n'étaient pas censés être interféconds et qui, de fait, le sont, mais aussi une hybridation des cosmologies. c'est-à-dire des manières d'organiser nos rapports au vivant. Et ce que raconte aussi ce livre, Croire aux fauves, c'est ça, c'est l'histoire d'une hybridation possible entre la cosmologie animiste, c'est-à-dire l'objet sur lequel je travaillais de fait, et la cosmologie naturaliste dans laquelle moi-même j'ai grandi. Et finalement, ce que permet en fait cet état de crise environnementale, c'est une porosité des mondes, c'est-à-dire une possibilité pour qu'ils non seulement entrent en dialogue, mais aussi s'interpénètrent et se transforment mutuellement pour créer autre chose qui n'existe pas encore et qui va pouvoir être une réponse à cette crise.
Oui, mais c'est un peu difficile dans votre cas, Anastasia Martin, parce que si on reprend votre expérience, votre rencontre très violente, là en l'occurrence c'est aussi ce que disait Baptiste Morisot, c'est des rencontres qui sont des confrontations et qui peuvent être très violentes entre les êtres, c'est quand même ce qui vous est arrivé. Est-ce que le fait de vous être confronté de cette façon-là à l'ours ne vous a pas finalement fait sentir profondément humaine et justement pas hybride? La confrontation, elle était à mort. C'est-à-dire que il vous a mangé la moitié du visage, il vous a mordu la jambe, vous avez dû vous battre physiquement et vous lui avez donné un coup de piolet, il est parti blessé, on pensait qu'il a survécu aussi, l'ours, mais c'est pas une hybridation.
Oui,
ça.
Vous êtes en train de poser une question très importante et intéressante. C'est la question de la zone liminaire, en fait. C'est la question de jusqu'où on va dans l'hybridation et comment on fait pour en revenir. Parce que, effectivement, à un moment donné, pour pouvoir survivre et continuer d'exister, il faut reconstruire des limites entre soi et l'extérieur. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est pas le fait de séjourner dans cette zone liminaire, c'est le mouvement même, et ça c'est un mouvement proprement anthropologique, d'aller dans cette zone où l'on n'est plus vraiment soi, mais on n'est pas non plus vraiment l'autre. Ça c'est la zone de la rencontre.
À la frontière.
À la frontière, c'est la zone du rêve, c'est la zone du mythe. Hein, c'est exactement ce mouvement-là que racontent les mythes indigènes du Grand Nord. Comment on part chercher des dispositions qui ne sont pas les nôtres tout au fond de la gueule d'un autre que nous, ou au fond des mers, au fond des lacs. Et comment on remonte et comment on fait finalement de ces dispositions des capacités qui vont nous aider à nous métamorphoser face au monde tel qu'il est en train de devenir finalement. Et c'est ce mouvement-là qu'il est important de retracer.
Et c'est aussi ce mouvement-là que vous racontez dans Croire aux fauves. Vous avez utilisé le mot, donc je le reprends, c'est le récit d'une reconstruction, puisque vous racontez l'évolution physique, les souffrances, les opérations, le streptocoque qui vient s'ajouter au reste, le soupçon de tuberculose, les rapports avec le corps médical, le comportement des personnels, le fonctionnement de l'hôpital public français, puis russe, puis enfin, tout y est, tout est là. Le récit d'une construction s'est imposé à vous aussi de cette façon-là, c'est-à-dire il a fallu à un moment vous dire... J'ai ressenti le besoin d'écrire cette histoire-là.
Oui, absolument. Et d'écrire pas n'importe comment. C'était important pour moi de passer par une écriture littéraire, de faire ce geste, en fait, et de me servir de la littérature, je dirais, plus que comme d'un outil, presque comme d'une arme, en fait, pour pouvoir traduire ce mouvement dont on parlait tout à l'heure, qui est quelque chose de pas si facile à expliquer finalement, mais en passant par l'histoire et par une écriture qui était capable de résonner finalement chez un grand nombre de personnes, et justement de montrer que si elle résonne même dans nos mondes ici, c'est qu'ils ne sont pas si fermés à ce genre de récits, à ce genre de concepts, à ce genre d'expériences, etc. C'est vraiment ce passage par la littérature qui m'a permis de me libérer à la fois de cette histoire, pour pouvoir écrire la suite, hein, mais aussi de partager la quête du chercheur en tant que tel, c'est-à-dire comment on fait face à ces expériences limites pour sans cesse faire un pas de côté, se donner les moyens de faire un pas de côté et de ne pas être d'emblée ressaisi dans des cadres symboliques qui finalement ne sont plus assez ouverts pour saisir ce que le monde est en train de devenir. Et donc c'est ce mouvement du chercheur de tout le temps faire un pas de côté, se donner les moyens d'être réflexif et aussi de laisser planer le doute sur, c'est ça, ne pas fermer le sens, c'est-à-dire laisser planer le doute sur la manière de se ressaisir véritablement de cette expérience. Finalement, c'est un chemin, c'est une méthode, mais c'est sûrement pas une leçon existentielle que l'on donne à la fin.
Je dis que rester en vie face à l'ours, comme face à ce qui vient dans ce monde-ci, c'est accepter la reprise en forme de transformation structurelle. L'unicité qui nous fascine apparaît enfin pour ce qu'elle est, un leurre. On va laisser passer les titres de l'actualité à 7h30 sur France Culture, Anastasia Martin, et on vous retrouve dans deux minutes. On retrouve notre invité ce matin, l'anthropologue Anastasia Martin, auteur de « Croire aux fauves » qui a paru aux éditions Verticales. On vous quittait sur l'expérience que vous nous racontiez, Anastasia Martin, il y a deux minutes maintenant. Vous étiez appelée par les Évennes, la population avec qui vous aviez partagé un temps votre vie. Vous étiez appelée avant votre rencontre avec l'ours. Vous étiez surnommée Matouka, l'ours. Et puis depuis, ce qui s'est passé, les Évennes se sont mis à vous appeler Mietka, entre deux mondes, c'est-à-dire un peu ours, un peu humaine.
Comme le disent les Évennes eux-mêmes, l'ours, raison pour laquelle il attaque au visage, voit sa propre âme se refléter dans le regard de l'humain. Et donc s'il le regarde, ce que disent les Évennes, c'est que si les regards se croisent, il attaque nécessairement au visage parce qu'il ne supporte pas, contrairement aux humains, de se regarder en face. Après, moi, je ne souhaite pas m'identifier à ce terme particulièrement, c'est-à-dire ce que les collectifs humains font en tant qu'humains lorsqu'un événement déborde leur cadre de référence et qu'il est hors cadre. Et même une femme qui survit à un ours au Kamchatka pour les Évennes, c'est du hors cadre. Ils le ressaisissent, en fait, en mettant des mots et du sens dessus, pour que ça soit tout simplement compréhensible et partageable. Et moi, en fait, mon travail, ce n'est pas de me fondre dans le sens que l'on va m'assigner, c'est justement d'essayer de déployer les possibles des sens. C'est ça que j'essaie de dire par faire un pas de côté, se décaler par rapport au système symbolique que l'on nous propose. Parce que finalement, le sens de cette rencontre, il est encore ailleurs.
De votre expérience avec les Gwich'in en Alaska, vous avez, de votre vie, vous avez passé deux ans, je crois, avec eux. Vous avez tiré un livre qui s'intitule « Les âmes sauvages, face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska ». C'était en 2016 et c'est tiré de votre thèse sous la direction de Philippe Descola. Est-ce que, puisque les Gwich'in sont touchés de plein fouet par le réchauffement climatique aujourd'hui, est-ce que vous diriez que de la même façon les Évennes aujourd'hui vivent le réchauffement climatique et surtout peut-être avec toute la réflexion qui est la leur, ils sont mieux armés pour affronter un monde qui est le nôtre et qui est un milieu en mutation ?
Oui, je dirais qu'ils sont beaucoup plus réflexifs que nous, quelque part, parce que ils ont déjà été confrontés de plein fouet à une crise systémique. C'est-à-dire que, bon, en Alaska, il y a une crise écologique, environnementale qui est beaucoup plus forte qu'au Kamchatka parce qu'on se trouve plus au nord. Donc les effets du réchauffement climatique sont beaucoup plus visibles au quotidien, en fait. Hein. Les forêts brûlent, les berges des rivières s'effondrent sous l'effet de la fonte du permafrost. Les animaux migrateurs disparaissent, ne migrent plus ou migrent dans des endroits complètement inédits. Donc eux sont touchés de plein fouet par la crise climatique. Côté Kamchatka, ils le sont aussi, un petit peu moins qu'en Alaska, mais ils le sont aussi, mais surtout... Et c'est ça qui m'intéresse au premier chef. Ils ont déjà été confrontés à une crise totale.
C'est quoi une crise totale ?
Politique, mais l'effondrement d'un système politique, économique, et en même temps que la déréliction totale des écosystèmes dans lesquels ils vivaient. Et donc évidemment, nous ici en Occident, nous savons tous qu'il y a une crise, mais elle reste la plupart du temps théorique pour nous, parce que, juste à preuve du contraire, le matin, quand vous vous levez, le sol ne s'est pas dérobé sous vos pieds. Alors que, chez ces gens avec lesquels je travaille, de fait, le sol s'est et se dérobe sous leurs pieds. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est extrêmement important pour nous en Occident d'être attentifs aux réponses qu'ils sont en train de produire, à ces réponses animistes que j'essaie de définir tant côté Alaska que Kamchatka, parce qu'elles peuvent nous permettre de, finalement, encore une fois, de prendre un petit peu de la distance avec nos manières habituelles de répondre finalement au changement climatique. par une armada technologique encore plus grande, si j'ose dire. Et je ne pense pas que la géo-ingénierie réussira de fait à nous sauver. Donc peut-être ce qui peut nous aider, c'est justement de nous décaler et d'être attentif à ce que ces peuples dont on a supprimé la voix pendant des siècles et des siècles peuvent nous dire aujourd'hui de cette crise à laquelle ils font face de manière créative.
D'où l'importance de lire votre livre aussi, Natacia Martin. Croire aux fauves, qui est un livre, je le dis pas souvent, donc je dis il faut lire ce livre, vraiment. Je le conseille à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Si en plus vous avez réussi à mettre des mots sur une page là où vous avez encore du mal à raconter les choses oralement, et où on entend bien que vous mettez quand même encore de la distance, et on comprend évidemment pourquoi. Merci beaucoup pour ce livre qui est aussi un bouleversant hommage à votre mère, à une mère qui, dites-vous, s'est tant inquiétée pour sa fille. Et ça, c'est rare et c'est très beau. Merci donc beaucoup. On va se quitter en musique avec votre choix musical. Vous avez choisi une aria de Bach. Laquelle ?
La numéro 4.
Vous nous diriez pourquoi vous avez choisi cette musique ?
C'était une musique que mon père, qui enseignait les politiques sociales à Grenoble, mais qui était aussi un grand violoniste, me jouait quand j'étais petite.
Enchaîner en douceur, à peu près comme la voix de Bobby McFerrin, pour vous dire qu'il est 7h40 sur France Culture et qu'on enchaîne tout de suite avec la Fabrique médiatique.